7h43 sur France Culture et la suite du programme de France Culture. C'est tout d'abord l'avocat François Sureau. Bonjour, maître.
Bonjour.
Vous êtes avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. On va parler liberté publique et état d'urgence sur nos libertés. Et je vous propose tout d'abord, comme c'est le moment du son du jour, d'entendre du François Sureau. Allez, un extrait de l'une de vos plaidoiries. C'était le 31 janvier 2017 au Conseil constitutionnel lors d'une QPC. Vous allez nous dire ce que c'est. Une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'apologie du terrorisme.
La liberté de penser, la liberté d'opinion, et je n'aurai pas l'outrecuidance de citer la foule des grands auteurs, n'existe pas seulement pour satisfaire le désir de la connaissance individuelle, le bien-être intellectuel de chaque citoyen. Il n'est pas protégé simplement à ce titre par la déclaration que vous avez mandat d'appliquer. Il l'est parce que cette liberté est consubstantielle à l'existence d'une société démocratique, dont le premier devoir de l'État est de garantir le perfectionnement incessant. C'est l'éducation de l'homme à la raison politique de Kant, et c'est ce devoir que l'État méconnaît ici, ruinant, sous prétexte de sécurité immédiate, ce mouvement même de la connaissance et du choix qui, à la fin, est seul susceptible de protéger notre société du péril qui le menace. Ça n'est pas en ôtant du cerveau du citoyen, selon le mot de Tocqueville, le trouble de penser, qu'on peut espérer triompher de ceux qui précisément veulent qu'on ne pense pas. Cette question est aussi vieille que la démocratie elle-même.
Quelle éloquence, maître !
Oui, oh, c'est facile, c'est une plaidoirie d'un genre un peu spécial, parce que devant le Conseil constitutionnel, tout le monde fait pas comme ça, mais moi je fais comme ça, c'est des textes lus. On plaide en 10 minutes, on a affaire à 9 juges qui sont quand même extraordinairement formés, l'essentiel de la procédure est écrite, c'est pas comme si on allait avoir une discussion ouverte et évoquer des arguments à l'audience. En fait, c'est une plaidoirie qui ne se donne pour but que de faire vaciller la conviction de 2 ou 3 juges auxquels on pense quand on parle. Alors je ne vous dirai pas lesquels, naturellement, auxquels je pensais en disant ça, mais c'est ça que ça vise à faire, et c'est pour ça que c'est fait comme ça.
Alors on va parler du fond, mais parlons d'abord de la forme. On dirait une sorte de chronique radio, un discours de politique. Vous préparez ça comment ?
Je me monte le bourrichon, comme disait Flaubert. Je crois que... Mais ça, ce sont des plaidoiries assez particulières parce qu'elles ont une composante technique et puis il est clair qu'elles ont une composante politique. D'abord, personnellement, je les prépare dans
pas
un...
Pas que technique. Vous citez Kant, vous citez Tocqueville. Oui, parce ça que... Ça n'est pas du droit.
C'est-à-dire que, à ce niveau-là, le droit constitutionnel, il s'agit de savoir ce que les gens ont voulu faire quand ils ont rédigé la Déclaration des droits. Et on ne peut pas se demander ce qu'ils ont voulu faire quand ils ont rédigé la Déclaration des droits sans s'interroger sur ce qu'était leur origine philosophique et sur la nature même de la société démocratique. S'il existe un Conseil constitutionnel, c'est pour vérifier ça. Et c'est d'autant plus nécessaire que ça fait maintenant une trentaine ou une quarantaine d'années que le Parlement est globalement peuplé de gens totalement incultes sur le plan de la philosophie juridique. C'est nouveau, ça. Hein.
Alors, parlons justement de la philosophie juridique et de la manière dont la France appréhende la notion de liberté. Vous pensez que notre pays aime la liberté, maître ?
Je pense qu'il l'aime, comme beaucoup de choses en France. Je pense qu'il en parle beaucoup aussi parce qu'il ne la pratique pas énormément. Je pense qu'on a un problème absolument évident avec la liberté qui peut-être tient au fait, je vais être évidemment très, très synthétique, au risque de faire bondir les vrais spécialistes, on a un problème avec la liberté qui tient au fait qu'on aurait pu choisir Montesquieu ou Voltaire. C'est-à-dire on aurait pu considérer dans les années 1780 qu'à l'origine de tout, il y avait l'existence d'un homme libre, d'un citoyen libre, d'une personne dont il fallait garantir l'existence, le cas échéant contre l'État. C'est pas ce qu'on a choisi. On a choisi Rousseau et le culte de la volonté générale. Qu'est-ce qu'il en résulte ? Il en résulte que quand la volonté générale, qui s'exprime par la voix du Parlement, nous explique que globalement, la sécurité vaut tout et la liberté ne vaut rien, tout le monde est d'accord avec cette idée. C'est-à-dire que le culte absolu de la volonté générale tend chez nous à faire disparaître l'idéal des libertés publiques. Ce qui explique d'ailleurs que pendant très longtemps, on n'a pas contrôlé la loi par rapport aux normes constitutionnelles, et qu'il a fallu attendre pratiquement 1971, avec une décision célèbre du Conseil constitutionnel, à propos de la liberté d'association, il a fallu attendre 1971 pour que le Conseil constitutionnel accepte de contrôler le contenu d'une loi par rapport aux grands principes de la Déclaration des droits. Il ne le faisait pas avant. C'est quand même le signe de quelque chose d'assez profond et qui montre que chez nous, le combat pour les libertés publiques est toujours à reprendre, parce que d'une certaine manière, il ne rentre pas véritablement dans l'ADN politique français.
Vous êtes en train de dire que nous ne sommes pas un pays libéral.
Nous ne sommes pas un pays libéral au sens où, par libéralisme, on entend le libéralisme
Montesquieu, par exemple.
Montesquieu, etc.
Tocqueville, non, que vous citiez.
Voilà, quand on dit libéral, on pense plutôt à... on pense en France d'ailleurs assez souvent au libéralisme économique, mais nous ne sommes certainement pas un pays libéral sur le plan politique, ou en tout cas, ce qui est très frappant, et on le voit d'ailleurs et au Parlement et quand on plaide devant les juges, en particulier les juges constitutionnels, cette question du respect des droits de la personne est une question qui traverse absolument les formations politiques. Il y a toute une partie de la gauche pour laquelle ces mots, une gauche de type valsiste, pour laquelle ces mots n'ont absolument aucun sens, exactement comme pour une partie de la droite.
Mais vous avez entendu le journal de Catherine Dutu tout à l'heure, le terrorisme y occupe une place importante. Est-ce que ça ne mérite pas justement qu'on mette un mouchoir sur nos libertés individuelles pour avoir la sécurité collective ?
Une question extrêmement profonde. La vérité, en réalité, est tout à fait à l'inverse. Mais je voulais juste mentionner deux points là-dessus qui me paraissent très importants. La première chose, c'est que si nos pères fondateurs, si je puis dire, ceux de 89, ont essayé d'édifier une politique des droits, une philosophie des droits individuels, ils l'ont pas fait en pensant que cette philosophie devait s'appliquer uniquement quand tout va bien. Et d'ailleurs, au moment où la plupart des grands auteurs expliquaient qu'on pouvait pas perquisitionner chez quelqu'un sans mandat d'un juge, hein, ce qui est à peu près une des garanties qu'on a suspendues au moment de l'état d'urgence, on pouvait pas traverser de la forêt de Bondy sans escorte armée. Donc, les gens qui ont réfléchi à cette idée de préservation d'une société libre ne l'ont pas fait dans une situation où tout allait bien. La deuxième chose qui est encore plus grave, c'est que, en fait, il y a là-dedans une forme d'imposture. Plutôt que de s'organiser pour que la police soit véritablement efficace à l'égard des 400 personnes réellement dangereuses, parce que je suis tout aussi avide de sécurité individuelle que tout le monde, je suis pas un aventurier là-dessus. Plutôt que de s'organiser pour que la police soit efficace, pour qu'elle travaille davantage, pour qu'elle ait plus de moyens, pour qu'on recrée les renseignements généraux par exemple, que sais-je encore, plutôt que de faire ça, on a préféré suspendre les libertés publiques de l'ensemble des Français. Et c'est ça la problématique de l'état d'urgence, c'est le résultat de l'influence d'un certain nombre de groupes de pression judiciaire et administratif au Parlement, qui en réalité ont réussi ce tour de passe-passe de restreindre les libertés publiques de l'ensemble des Français plutôt que de s'attaquer aux personnes auxquelles on voulait s'attaquer. Le résultat, c'est que pendant la période de l'état d'urgence, on s'est servi par exemple de l'assignation à résidence pour assigner à résidence des Corses à propos d'histoires de matchs de foot en Corse du Sud ou des écologistes au moment de la COP21. C'est ça qui est inacceptable.
Je vais vous faire entendre un extrait du discours du porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner. C'était hier chez nos confrères d'Europe 1. Vous allez voir, à mon avis, il n'est pas d'accord avec vous, maître François Sureau.
L'état d'urgence a été pensé à un moment où le risque terroriste n'était pas le même. Et donc, il est normal de regarder certaines mesures qui le caractérisent, de voir comment elles peuvent être adaptées hors de l'état d'urgence, parce que l'état d'urgence ne peut pas être l'état du droit commun. Pour protéger les Français, il ne faut pas faire la fine bouche et penser que telle ou telle mesure serait bonne ou pas bonne.
C'est-à-dire que l'état d'exception pourrait devenir le droit commun ?
Pour certaines mesures, mais pas dans sa globalité. Je vais vous prendre deux exemples. Oui. Les assignations à résidence administrative doivent être étudiées, mais elles ne doivent pas être la règle. Par contre, la sécurisation temporaire des aires sportives ou culturelles, qui est permis aujourd'hui par l'état d'urgence et qui ne l'est pas facilement par le droit commun, doivent pouvoir l'être hors de l'état d'urgence. Voilà deux exemples qui montrent qu'il faut que nous trouvions ce point d'équilibre.
Le point de vue donc du porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, votre point de vue à vous, François Sureau.
Bah, curieusement, je suis plutôt d'accord avec lui. Je trouve que ce qu'il dit là, alors je ne sais pas si ça sera suivi des faits, l'expérience montre en général que les nouveaux gouvernants sont pris en main par les syndicats de police, le corps préfectoral et les magistrats répressifs dans un délai qui varie entre 48 heures et un mois et demi.
Donc, ce gouvernement-là
Pour le moment, ce que j'entends là est plutôt satisfaisant. Ce qu'il dit va au rebours de ce qu'on a entendu plaider quand, avec mon associé Spinozzi, nous plaidions contre l'état d'urgence. Ce qu'il dit, c'est que l'état d'urgence n'a pas vocation à être permanent. Au moment des plaidoiries qu'on a faites contre différentes reconductions de l'état d'urgence, la position du gouvernement de l'époque était radicalement différente. Elle consistait à dire, en réalité, on va sortir de l'état d'urgence, mais en reprenant à peu de choses près toutes les grandes caractéristiques de l'état d'urgence pour les mettre dans le droit commun. Là, ce que dit Castaner de manière un peu emberlificotée, mais quand même qui me paraît extrêmement intéressant sur le plan des principes, c'est qu'ils veulent rentrer dans le droit commun, quitte à changer un élément ou deux sur l'assignation à résidence ou les phénomènes sportifs. Très franchement, je trouve que dans l'état lamentable où nous sommes, ça serait un progrès considérable s'ils réussissaient à le faire.
Mais regardez ce qui s'est déroulé à Londres, quasiment tous les terroristes, les trois terroristes, en tout cas deux d'entre eux étaient connus des services de police. Est-ce que ça ne mériterait pas une législation d'exception, François Sureau ?
D'abord, j'observe que les Anglais n'ont pas d'état d'urgence et ne se sont pas préoccupés une minute d'y rentrer après les événements. C'est quand même très significatif. Nous sommes les seuls, à chaque fois qu'il se passe quelque chose de grave, à supprimer totalement les libertés publiques, régime sous lequel nous vivons depuis assez longtemps maintenant. Pourquoi est-ce qu'on a fait comme ça ? C'est ça, c'est très important. Personne de sérieux ne pense que l'état d'urgence, avec ses mesures administratives, a une quelconque efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Il y a eu 7000 perquisitions administratives pour 4 mises en examen. Tout le monde sait que ça ne fonctionne pas. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé historiquement ? Un gouvernement généralement mal inspiré, face à une angoisse collective totale, a cherché la chose spectaculaire et la plus spectaculaire qu'il pouvait mettre en place, et il a décidé de mettre en place l'état d'urgence. Alors maintenant, faute de pédagogie, ou plutôt avec l'effet de cette pédagogie négative, la plupart des Français pensent que l'état d'urgence est indispensable à leur sécurité. Il n'en est absolument rien. Il n'en est rien, et tout le monde le sait, enfin parmi les spécialistes. On n'a jamais vu un procureur refuser d'ouvrir une enquête préliminaire, on n'a jamais vu un magistrat antiterroriste refuser de délivrer un mandat de perquisition. L'idée qu'il faudrait suspendre les libertés de tout le monde et confier au préfet le rôle normalement dévolu aux magistrats, si je puis dire, est une idée totalement surréaliste. Mais les gouvernements se sont laissés enfermer dans ce piège. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait ? Parce que c'était commode, parce que c'était de pauvres hommes dépassés par les événements.
Votre thèse, vous l'avez résumée tout à l'heure, François Sureau, vous avez dit finalement que la France n'aimait pas la liberté, que nous avions choisi Rousseau contre Voltaire et Montesquieu. J'ai un argument en faveur de Rousseau. Rousseau, finalement, c'est le poids de l'État. Et cet État, en France, le contrat social français, il fait finalement que l'État est suffisamment fort pour ne pas craindre la légitime défense. Et c'est la raison pour laquelle le monopole de la force légitime est à l'État, tandis qu'aux États-Unis, par exemple, les citoyens sont armés parce que ils sont en situation de légitime défense. Et c'est la raison pour laquelle, aux États-Unis, la peine de mort est toujours défendue. Il n'est pas question de la supprimer. Donc, ce que vous considérez comme étant une limitation des libertés est quelque chose qui prévient un certain nombre de dérives qui seraient la légitime défense des citoyens. Ça, c'est une bonne chose en faveur de Rousseau.
Oui, mais ce que je critique, ça certainement, mais ce que je critique dans le rousseauisme, ça n'est pas le rousseauisme en lui-même, c'est une version incroyablement dégradée du rousseauisme. C'est-à-dire, globalement, nous avons depuis 20 ans une classe politique qui est totalement inefficace dans son maniement de l'État. Si Macron, d'ailleurs, dans ses premières semaines paraît meilleur que les autres. C'est exactement, je sais pas si vous en souvenez, comme Balladur paraissait meilleur que les autres dans les trois premiers mois où il a été Premier ministre. C'est simplement parce qu'il s'efforce de prendre des décisions, d'apparaître comme gérant l'État, enfin de faire des choses normales, que pratiquement tout le monde a oublié de faire depuis une vingtaine d'années. Et oubliant de le faire, qu'ont fait les responsables publics depuis 20 ans ? Ils se sont lancés dans une espèce de furie normative. Bref, plutôt que d'avoir un ministre de l'Intérieur capable de négocier un compromis d'efficacité avec les syndicats de police, on a préféré faire passer une loi antiterroriste par an pour réduire les libertés de tout le monde. En réalité, il n'y a plus d'État, et c'est pour cela que nous avons de plus en plus de lois. La lutte antiterroriste, à mes yeux, suppose en réalité de redonner un pouvoir à l'État, mais un pouvoir effectif. La recréation de renseignements généraux, une police plus efficace, une police mieux équipée. Alors ça ne se voit pas. Ça ne permet pas d'aller au Parlement en disant « j'ai fait la loi Tartemolle ». Mais c'est certainement ce qu'il faut faire.
Mais alors, c'est quoi ? C'est de la gesticulation ? On agit ainsi parce qu'on fait semblant d'agir contre le terrorisme alors qu'en réalité on est impuissant ? Ou bien on en profite pour tenter de limiter plus encore la liberté alors, de nos concitoyens, selon vous, François
Sureau ? Il y a plusieurs éléments. D'abord, ce que je pense, c'est qu'il faut faire crédit aux gouvernants de leur bonne foi. C'est-à-dire que, dans la mesure où on a eu ces dernières années quand même des gouvernements relativement inaptes, le clavier
tout
législatif...
Inaptes, parce que j'aimerais juste... Oui. Je n'ai pas réagi tout à l'heure quand vous avez dit que ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas eu un bon ministre de l'Intérieur. On en avait un bon avant Gaston Defferre, je ne sais pas. Enfin,
eh ben moi j'avais
vous avez apparemment une amitié pour les Corses.
Oui, non, j'avais plutôt une prédilection pour Jox, qui a certainement été l'un des derniers grands ministres de l'Intérieur. Mais bon, en dehors de ça, ça c'est vraiment un jugement subjectif. Ce que je veux dire simplement, c'est que il y a des raisons pour lesquelles les hommes politiques ont réagi comme ça depuis ces années. La première raison, c'est que je crois qu'ils étaient totalement dépassés par l'ampleur du problème, ampleur qui les a surpris, qu'ils ont longtemps nié. La deuxième raison, extrêmement profonde, qui explique ces errements normatifs, c'est la disparition de la culture politique, de la classe politique et parlementaire, de la culture politique au sens de la culture philosophique. Quand vous regardez les débats de la 3e ou de la 4e République à propos des législations d'exception, vous vous rendez compte que le Parlement, quand même, il y a débat. Alors à la fin, ça tombe du mauvais côté, comme au moment des lois scélérates en 1893, ou au moment de la loi sur l'état d'urgence. Mais il y a un débat, il y a un débat véritable. Il y a des gens qui sont toujours inspirés par la philosophie des droits. Ce qui est très frappant à l'heure actuelle, c'est que ce débat a entièrement disparu. Il faut attendre d'être devant le Conseil constitutionnel pour le tenir, alors qu'avant il existait au Parlement. C'est dû au progrès incroyable de l'inculture juridique de la philosophie des droits chez les parlementaires, et probablement à une culture uniquement instrumentale dans son rapport au droit de l'École nationale d'administration. Je vous en donnerai un exemple qui est absolument caractéristique. Lorsque le gouvernement a décidé de censurer le délit, le Conseil constitutionnel a décidé de censurer le délit de consultation des sites terroristes, la décision du Conseil constitutionnel sort à 14h. À 18h, on apprend que 4 mecs, dont messieurs Bas et Ciotti, se sont réunis en commission pour en réalité contourner la décision du Conseil constitutionnel. Ceci, il y a 30 ans, aurait provoqué un véritable scandale public.
François Sureau, on vous retrouve aux environs de 8h20. On continuera à évoquer les libertés publiques et puis vous nous parlerez de politique et de littérature. Parce que, et malgré tout, c'est ce que vous préférez faire. On parlera de vos livres et de votre rapport à l'écriture. 8h sur France Culture.